RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas de la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'after, c'est parti pour deux heures de bonheur. On va revenir bien entendu sur les résultats de cette 31e affiche de Ligue 1. Il y a eu beaucoup de buts ce soir en Ligue 1. Il y a eu 3-1 pour Dijon à Lyon, c'était cet après-midi. Il y a eu un partout entre Guingamp et Monaco, 2-2 entre Amiens et Saint-Etienne, 3-3 entre Angers et Rennes et puis Nîmes qui a battu Caen 2-0. Il y a également des chocs à l'étranger. Il y a un choc en ce moment même d'ailleurs entre le Barça et l'Atlético de Madrid. On va y revenir dans quelques secondes avec Fred Hermel. Et puis il y a eu le carton de cet après-midi, le classiqueur, le match entre le Bayern et Dortmund, 5-0 pour le Bayern face au Borussia. On y reviendra avec David Lortolari. Avec nous ce soir, Ali Benarbia. Ali Benarbia, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Ça va Ali?
Très bien.
Bonsoir Jonathan Macardy.
Bonsoir mon Nico, ça va mieux?
Ouais, écoute Angine.
Tu nous as manqué hier. Louis a assuré, mais tu nous as manqué quand même.
Il était très bien, hein, Louis.
Il était très bien, mais tu nous as manqué quand même.
Ouais, c'est sympa. Moi,
c'est l'habitude et tout, les petits rendez-vous coquins.
C'est moi, les angines, soir. C'est mon délire, moi.
Les angines,
les
c'est clim, mon délire.
Les clims, trucs, tout ça, là, c'est hallucinant. Tu me tapes un nombre d'angines dans l'année.
Ça, bon, ça va mieux, Bichon. C'est l'essentiel.
Ouais, ça va mieux. Je donne quelques autres résultats également avant de plonger dans la Ligue 1. Résultat de Ligue 2, 31e journée de Ligue 2, 0-0 entre Auxerre et Metz. Metz qui est leader avec 6 points d'avance sur Brest. Auxerre qui est 15e. En Espagne, le Real qui perdait 1-0 face à Eibar s'est finalement imposé 2-1 grâce à un doublé de Benzema. Le Bayer Leverkusen s'est incliné à domicile 4-2 face au RB Leipzig. Le Bayern, on vient de le dire, s'est imposé 5-0 face à Dortmund. La Juve a battu Milan 2-1. En Angleterre, demi-finale de la FA Cup, Man City a battu Brighton 1-0. De meilleur à l'autre demi-finale, ce sera entre Watford et Wolverhampton. Et puis également du top 14 ce soir. 21e journée du top 14, Castres face à La Rochelle. Il est avec nous ou pas, Wilfried Templier?
Il est là.
Il est là, comment
ça
il va?
Ça va et toi, le SCO d'Angine? C'est bon,
ouais.
Ça?
Non, c'est drôle, ça.
Oh, bravo!
Facile. Adrien Bédou m'avait fait la même dans l'oreille.
Ah, mince! Ah ouais, les grands esprits se rencontrent. Il m'a rien dit, hein, je te jure.
Ouais, mais je vous crois.
Voilà.
Mais
c'était un peu nul quand même, mais.
Non, c'est marrant, ça.
Non, moi, j'ai bien.
Mais Ali, toi, les blagues de merde, t'adores. Tout le
temps. Oh, non, tout de suite.
Si j'aime pas.
Trop d'Angine, c'est bien, non?
Ouais. Allez, ça un passe. Petit peu de finesse rugbyistique dans ce monde de brut footballistique. Oui, messieurs, Castres-La Rochelle, c'est bien ça. 14-8 pour le champion de France en titre de prétendant aux phases finales pour entrer justement dans les 6. On est entré dans le sprint de ce top 14, hein, les 6 dernières journées, 58e minute, grâce à un essai notamment de Combezou, Castré devant face à La Rochelle. 14-8, mais c'est âpre, hein, c'est du costaud, évidemment. C'est ce à quoi on s'attendait. Et pour l'instant, ben voilà, c'est pas encore, on n'a pas encore fait la décision du côté de Castres. 14-8, il reste 20 grosses minutes à jouer.
Merci beaucoup Wilfried, il reste 20 minutes à jouer également en Italie entre la Samp et la Roma, 0-0 pour le moment. Et puis c'est le choc en Espagne de ce week-end, Barça-Atlético de Madrid. Fred Hermel est avec nous pour nous faire vivre ce match, bonsoir Fredo.
Mais les angines, c'est ce qu'on avait quand on avait 8 ans, ça, non?
Mais tu sais que plus je vieillis et plus j'en fais, je te jure que c'est vrai Fred.
Mais tu voilà, c'est un peu comme Benjamin Machin, là, tu sais, c'est Benjamin, tu retournes en face. Ouais. Voilà, Benjamin Button, voilà Ticos.
Salut Fred.
Ouais, il m'énerve Diego Costa. Il nous a gâché
plus
un match.
Il a un moment pourtant là.
Ouais, mais il nous a gâché le match.
Un peu, c'est vrai.
Expulsé à la 28e
alors que.
Il était allé 2 cm de sa bouche en hurlant. Il y a une faute sur lui. Il va. Donc il a dû l'insulter gravement parce que l'arbitre allait prendre le carton jaune dans une poche. Et il change, donc il sort le carton rouge dans l'autre poche. Donc voilà, on a bien vu que Diego Costa, mais qui est un imbécile, il faut le dire, parce que le Barça contrôle la rencontre et se dit que finalement l'Atlético va se fatiguer alors qu'il y avait une belle opposition et un Atlético qui était. L'Atlético a besoin de gagner ce soir pour encore entretenir l'espoir de pouvoir remporter la Liga et revenir à 5 points. Mais c'était quand même beaucoup plus offensif que qu'on a l'habitude avec Diego Simeone, notamment à l'extérieur, quoi. Et Diego Costa a tout gâché, quoi. Et Griezmann, qui commence à être très très bien dans le match, bah privé de celui qui fait le sale boulot devant lui, bah il a quand même beaucoup plus de mal. Même si là Morata vient de rentrer pour faire ce travail. 60 minutes, 12 secondes, toujours 0-0 entre le Barça et l'Atlético, et la grosse déception parce que Costa gâche la fête.
Ouais, on y reviendra en détail tout à l'heure avec toi, Monfredo, sur ce match entre le Barça et l'Atlético de Madrid. 0-0, on va débuter cet after par le plus important, c'est-à-dire par les 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Allez, vas-y, mon Ali, tes 3 points, là.
Alors, ce qui m'a plu, là, c'est beaucoup de buts. à cette journée habituellement. Ouais. Le samedi, on n'a pas beaucoup de buts.
On n'avait même pas beaucoup de matchs en ce moment, le
avec,
samedi. Donc.
Avec des fins de match exceptionnelles. On a vu l'égalisation, la victoire, une autre encore égalisation. Rien n'est fini. Ça va être jusqu'au bout la bagarre pour le maintien. Donc, on va avoir peut-être un groupe de 5-6 équipes. Ça, c'est assez exceptionnel. Je vais rester sur ça.
Tu te fous de ma gueule, là ?
Oui.
Froidement, t'as fait un point, quoi.
Oui. Parce qu'après, j'ai rien d'autre.
Le mec, il s'en fout,
après,
quoi.
J'ai rien d'autre.
Okay. Ah merde. D'accord.
Non, sur tous ces matchs-là, ce soir, ça va être le maintien. On va parler de tous ces matchs-là. Débrouille-toi, Jonathan.
Il est même pas de bouger, le mec, tu sais. Ok, vas-y. Ça
du coup, faut que j'en fasse 5 de points ou j'en fais 3.
Essaye d'en faire 3.
T'es comme Roland, t'es comme Roland.
Les 3, bien sûr que je les ai. Le premier point, c'est Lyon qui s'enfonce dans une espèce de crise entre la conférence de presse, un ridicule cataclysmique de Jean-Michel Aulas à Bruno Genesio et les performances sportives. On a remarqué que les choix de Genesio n'ont pas été payants et les cadres étaient aux abonnés absents, je pense à Marcelo et à Fekir notamment. Le deuxième point, ça va être Saint-Etienne qui, même s'ils prennent un point, pour moi ils ratent le coche, parce que sur ce match-là ils n'ont pas forcément fait tout ce qu'il fallait, même s'ils ont eu les occasions de gagner, et il faut dire qu'Amiens en face a été très bon, dédicace à Jean-Marc de la Maison du Whisky, donc voilà, Saint-Etienne rate le coche. Et le troisième point, ça va être sur le fait que, je pense que quand là, même si mathématiquement eh ben ils sont pas, il faut pas les enterrer, quand tu vois le contenu et quand tu vois ce qui se passe dans les matchs, j'ai bien peur que ça soit fini pour la troupe de Fabien Mercadal et Dronon.
Je vous rappelle quand même le classement de Ligue 1 avant de vous donner mes 3 points également. Bon, le PSG qui est leader avec 80 points, avec 20 points d'avance sur le LOSC qui jouera demain. Lyon qui est 3e avec 31 points. Derrière, on a Saint-Etienne 4e avec 50 points. Marseille 5e avec 48 points. Reims 6e avec 46 points qui jouera demain face au LOSC justement. Montpellier 7e avec 45 points. Nice 8e avec 44. Strasbourg 9e 42. Rennes 10e 42 aussi. Nîmes 11e 40. Angers qui est derrière avec 38, tout comme Bordeaux qui est 13e. Toulouse 14e avec 32 points. On a Nantes 15e avec 31 points. Monaco 16e avec 31 points aussi. Amiens 17e avec 31 points également. Dijon 18e, 24 points. Donc là, il y a un écart. Sauf que Dijon n'a que 1 point d'avance sur Caen qui est 19e. Et Dijon n'a que 1 point d'avance sur Guingamp qui est 20e. Je vous donne mes 3 points. L'un de ces points justement concerne le maintien. Alors c'est vrai que peut-être que dans le contenu, Caen, c'est pas ouf. N'empêche que Caen, ils sont toujours là mathématiquement. Ouais. Cette victoire face à Monaco, on s'y attendait pas et puis ils l'ont finalement eu. Que font les Européens, entre guillemets, c'est-à-dire Lyon qui perd, Saint-Etienne qui gagne pas et qui arrache le match nul difficilement, Marseille qui a perdu hier également. Finalement, c'est vrai que les équipes qu'on attendait en cette fin de saison, elles sont pas là. Et puis l'autre point, c'est l'OL. C'est vrai que c'est la faute aux prophètes. Tu sais, Jean-Michel Aulas a expliqué que c'était en gros la faute des prophètes, les journalistes qui sont en train de plomber la fin de saison de l'OL. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est la communication de Jean-Michel Aulas qui s'en prend aux supporters à la fin du match, qui dit il faut soutenir l'équipe, j'en veux aux supporters, et Bruno Genesio qui dit totalement l'inverse en conf de presse dans la foulée. Voilà, vous savez, ça, hier il y avait un peu la même entre Thauvin et Rudy Garcia sur l'analyse du match. Voilà, c'était vraiment communication totalement différente entre le président et l'entraîneur de l'OL sur ce point-là, du moins. Les gars, on va commencer par Lyon, justement. Lyon qui a donc perdu cet après-midi 3-1 face à Dijon. Terrier qui avait pourtant marqué le premier. Saïd qui a égalisé, on est seulement à la 3e minute de jeu. On est seulement à la 7e. Et Lyon qui est déjà mené 2-1 avec un CSC de Marcelo. Et ensuite, c'est Raphaël qui va marquer contre son camp. Voilà, Lyon qui est 3e, qui a 4 points de retard sur Lille. Demain, il y a Lille qui sera d'ailleurs à Reims. Dijon qui réalise donc du coup une bonne opération. Alors après l'élimination en Coupe de France face à Rennes, Lyon qui rechute encore. Bruno Genesio qui a carrément parlé de semaine noire du club en conférence de presse après le match. Explication de Bruno Genesio suite à cette nouvelle défaite, ça se passe dans la tête.
C'est vrai qu'on a eu des occasions, mais on n'a pas su amener suffisamment de folie pour bousculer encore plus cette équipe de Dijon. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les têtes lorsqu'on est dans des situations comme on est actuellement, et que il aurait fallu après l'ouverture du score être capable de maintenir l'intensité pendant quelques temps. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire puisqu'on a encaissé 2 buts en 3 minutes ou 4 minutes, et qu'ensuite je pense qu'il y a pas mal de doutes qui s'est emparé de dans les têtes des joueurs.
Alors c'est vrai, quand on entend Bruno Genesio se dire ça, on se demande si après l'élimination en Coupe de France et ces histoires de prolongation, la communication qu'il y a eu autour, ça n'a pas affecté finalement. La réponse justement de Bruno Genesio à ça, est-ce que tout ça, ça n'a pas un peu joué finalement, parce qu'il y a eu un problème dans les têtes?
L'élimination évidemment, le reste je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'influence par rapport à ça sur les joueurs. L'élimination, oui, elle a été très dure. Elle a été très difficile parce qu'on ambitionnait d'aller en finale, d'aller chercher un trophée cette saison par l'intermédiaire de la Coupe de France. Donc évidemment que ça a été difficile.
Voilà, ça a été donc la réponse de Bruno Genesio.
Franchement, ça, cette théorie, j'y crois pas trop parce qu'il y a des symptômes qui sont récurrents chez le patient lyonnais. Le premier, c'est cette irrégularité face au petit club. On le sait, Lyon offre contre les psys, ils sont capables de sortir des prestations de haut niveau dans les matchs en jeu. Et là, quand ils jouent des équipes mal classées, ils sont capables de paumer et d'être méconnaissables. Mais surtout, il y a une constante, je pense qu'il faudra qu'on en parle dans cet after-là. C'est, faut parler de Nabil Fekir. Nabil Fekir, ça fait un moment qu'il est pas bien. Sa saison aura été en dents de scie, malgré quelques coups d'éclat par-ci, de-ci et de-là. Mais là encore, ce soir, enfin, cet après-midi, on a vu qu'il y était pas. Je sais pas si c'est dans la tête, je sais pas si c'est physique, parce que c'est vrai qu'il a plus du tout ce coup de rein qui était relativement dévastateur lorsqu'il était en pleine bourre. Mais là, je l'ai vu vraiment en plein naufrage. Il avait les clés du camion. Ce soir, il jouait à son poste préférentiel en numéro 10. Il était dans les meilleures conditions possibles. C'est lui qui devait porter l'équipe. Et il a rien fait. Et même ses coups de pied arrêté était pas terrible. Donc je sais pas, Ali, c'est un peu ton poche, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, Fekir, je m'inquiète un petit peu pour lui.
Oh, c'est une saison un petit peu bizarre, cette équipe de Lyon. C'est pas spécialement Fekir, hein, parce que là, on a vu, ils arrivaient pas à se faire.
Il est un peu la figure de proue de ça.
On rappelle qu'au coup d'envoi du match, Dijon est dernier de Ligue 1, une équipe qui reste sur 9 matchs en victoire, toute compétition.
Ouais, c'est pour ça que j'en revenais, moi, à mon premier point, qui est le maintien, et je parlais plus de Dijon que de Lyon. Dans le sens où c'est Dijon que j'ai plus vu que Lyon aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes à Lyon, ça c'est sûr. Ils n'arrivaient pas à se faire 3-4 passes. À la défense, en fait, on a l'impression, ce qu'on reproche un petit peu à Genesio et à son équipe, c'est le sans ballon. C'est pas avec le ballon. Avec le ballon, cette équipe arrive à se créer des occasions.
Là, ils s'en sont pas créés. Ils sont créés 2-3 occasions par l'intermédiaire de Cornet notamment.
21 tirs à peu près.
Mais c'était pas des tirs dangereux, Ali. Il n'y a pas eu des très 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 grosses occasions pour l'OL.
Ah oui, t'as pas vu le gardien alors.
C'était pas des occasions franches, c'était des positions de tir qu'il a fait.
Il a fait deux sauvetages à bout portant, je sais même pas comment il les a fait. Ouais, mais ça change le match.
Dans le contenu, c'est insuffisant.
On parle du contenu. Voilà. Mais offensivement, le problème, c'est sans ballon. Cette équipe de Lyon sans ballon ne travaille pas du tout ensemble. On dirait qu'on leur apprend. Et Genesio à la mi-temps disait, oui, mais on a vu offensivement qu'on a été bien, on s'est créé des occasions. Et c'est vrai. Mais le problème, c'est à la perte du ballon, on dirait qu'il y a personne qui va faire le sale boulot. Aussi bien au milieu de terrain, que défensivement. Défensivement, c'est une catastrophe. Et c'est le problème de Lyon cette année. C'est sans ballon.
Alors, on précise que Lyon a terminé d'ailleurs, et je voulais les dernières minutes à 10 contre 11, parce que Denayer est sorti sur blessure, et Bruno Genesio avait déjà effectué ses 3 changements. Le public a même chambré à la fin du match. Hein. Quand les Dijonais faisaient tourner le ballon, on entendait des olé olé. C'était une ambiance assez hostile finalement aujourd'hui au Groupama Stadium.
Oui, c'est clair. C'était un peu pesant même en le regardant derrière la télévision. Après,
d'où d'ailleurs le coup de gueule de Jean-Michel Aulas à la fin du match.
Il y a une autre chose, les gars, moi, qu'il faudra m'expliquer, c'est pourquoi il a fait autant tourner. T'as plus rien à jouer là.
Non, c'était un match important.
Bah oui. Pourquoi il a fait autant tourner alors?
Bah ça sent un peu la sanction, non? C'est pas des choix qui.
C'est
fait.
Des choix peut-être, mais bon.
Pourquoi la sanction est intéressante? Tu dois avoir la meilleure équipe. T'as pas le temps de sanctionner pour essayer au moins de rattraper Lille au cas où Lille va à Reims et perd. Et il y a encore des matchs. Et là, tu vois ni Ndombele, tu vois
pas Memphis.
Pas, même s'il te parle, mais à domicile, il est quand même dangereux. C'est incompréhensible.
Il y a eu des choix très frileux aussi. Notamment pourquoi quand tu joues contre Dijon qui est relégable, pourquoi tu joues avec Lucas Touzard au milieu? J'ai rien contre lui, mais dans ce cas-là, mets un profil un petit peu plus offensif et c'est quelque chose, t'en as pas forcément
besoin.
Tu joues
pas Ndombele que tu joues Lucas Touzard, c'est compréhensible. Ou l'un ou l'autre.
C'est pas du tout le même profil.
Oui, mais tu peux pas jouer avec ça Ndombele, ça Touzard.
Non, mais il faut un mec dans ce registre.
Dans ce cas-là,
il te faut quelqu'un de la défense.
Mettre Touzard, ça témoigne d'une frilosité.
Personne qui défend au milieu.
D'imagination.
Tu mets pas Touzard.
C'est assez criant.
Aouar, il sait pas défendre.
Non, mais t'es pas obligé.
Ndombele, il défend
Dijon.
Pas autant
tu joues contre Dijon, ça marche. Ndombele, Aouar, on l'a vu plein de fois.
C'est pas parce que tu joues contre Dijon que tu vas jouer avec combien de joueurs offensifs? T'en as pas assez à Lyon.
Il a souvent fait Ndombele.
Mais à Lyon, t'as déjà trop de joueurs offensifs.
Souvent fait Ndombele, Aouar, ça marche très bien.
Aouar, il
joue
bien.
Il joue bien. Beaucoup de ballons.
Je parle pour la récupération du ballon.
Effectivement, et à la récupération, Aouar, il est présent.
Accueillons Mehdi, les gars, supporter de ballon. Au 32-16. Salut Mehdi.
Salut Nico, salut Jo, salut.
Ça va, Mehdi.
Salut Mehdi.
Ouais, ça va, c'est le supporter qui t'a ramené la petite
patrie. Ouais, je t'ai reconnu, ça y est, je reconnais maintenant.
Tu reconnais ma voix, Nico?
Oui, bien sûr. Bah, la voix, le nom,
il est romantique, bien sûr,
qu'il
reconnaît. Je sais pas ce que vous avez vécu tous les deux, mais ça l'a marqué.
Pas. Franchement, ça te regarde pas du
tout. Ah bon?
Non.
Et les conditions
entre Mehdi et moi, ça te regarde pas. Bon.
On est un couple open, c'est ça?
Oui, enfin, on n'est pas un couple, c'est là, je te signale. C'est n'importe quoi.
Laissez parler Mehdi, déjà.
Alors, Mehdi, t'es vénère ou pas, toi,
avec ta femme, Nico? Ouais, je suis vénère. Franchement, je suis vénère parce qu'en fait, il y a une semaine, on se disait, allez, on va y aller une finale, aller chercher au Stade de France. Un match face à Dijon qui devrait pas poser de problème. On va mettre la pression sur Lille. Et à la fin de la semaine, elle est catastrophique et cataclysmique, quoi. Je veux dire, on a tout perdu en une semaine. On a vu peut-être une finale aller jouer contre Paris. On n'a pas fait le match suffisant contre Rennes. Là, aujourd'hui, c'est catastrophique, quoi. Je veux dire, on commence bien le match. Et puis derrière, ça se liquifie. J'ai vu un Marcelo, on dirait un tracteur sur le terrain.
Ouais, Marcelo, c'est horrible.
Marcelo, c'est horrible. Franchement, Marcelo, là, il y a saturation overdose, quoi. On n'en peut plus. J'ai vu Tavares, il a bougé tout le match. Franchement, le...
Fekir, pareil. Hein.
Fekir, franchement, c'est un capitaine qui se cache sur le terrain.
Il s'est fait bouffer par Balmont. 40 berges.
Ouais, que là, c'est ça. Mais même, je sens que dans ses tentatives, il a peut-être 3 frappes aujourd'hui, 0 cadré, quoi. Il cadre rien.
Et même ses coups de pied arrêtés, ils sont pas très bien tirés.
Il a déjà mieux tiré. Enfin, il est tiré mieux que ça, normalement. Mais on sent qu'il y a un souci. Je sais pas si c'est mental, si c'est physique. Il n'y a plus rien à jouer physiquement. Donc là, on va passer à un rythme d'un match.
Toi, tu penses que c'est quoi pour Fekir? Tu dis que tu sais pas, mais quelle est ton intuition?
Bah, je sais pas. Il veut changer d'air. Enfin, il a peut-être. Dans son moment, c'est que c'est bientôt la fin de son contrat avec Bernès. Peut-être qu'il a envie d'ailleurs. Moi, je pense que physiquement, il n'est pas au top. C'est un gars qui a besoin d'être au top physiquement pour avoir le coup de rein
sur la première accélération.
Pour faire la différence. Aujourd'hui, il fait plus de différence en un contre un, quoi. Il fait plus de différence. On va pas se mentir. Et là, il y a beaucoup de pertes à la transmission du ballon. Et puis à chaque fois, Lyon, t'as l'impression, bon, il l'a dit tout à l'heure. Mais Lyon, quand ils ont le ballon, c'est pas le problème. Mais à chaque fois, c'est fort à l'amont et il y a plus personne pour défendre. Et derrière, on se retrouve aujourd'hui encore au bout d'une demi-heure. Je dis pas, bon, bah, il y a 2-1, on va essayer de construire, les faire courir. Et puis, je trouve que ça manque de mouvement entre les lignes. Il n'y a pas de solution pour le porteur. Ça multiplie trop les touches de balle. Et puis, comme ça, quand tu prends des buts, on sait très bien, Lyon, c'est tout le temps pareil. Dès qu'ils sont menés, ils n'arrivent pas à trouver, à forcer le verrou de toutes les équipes qui font de ligne de 4. Voilà, on joue pas assez vite. Ça manque de centre aussi de qualité. Ça manque de percussion. Raphaël a joué latéral gauche parce que Mendy est pas là. Mais bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, moi je trouve que c'est un peu manque de mots, quoi. Tu prends deux CSC, franchement, ils sont évitables, les deux CSC. Lopez, il prend 3 buts, mais il a quasiment pas grand chose à faire du match. Mais nous, il faut qu'on cadre, on a encore fait 25 tirs aujourd'hui, 6 cadrés, quoi. C'est pas possible, devant les buts, faut cadrer, faut frapper à l'entraînement, faut bosser, faut cadrer. Et puis là, maintenant, bon, on a de la chance que Saint-Etienne n'a pas gagné ce soir. Et on va voir ce que va faire demain Reims contre Lille. Mais si Lille gagne demain Reims, fini. Pour moi c'est fini pour moi aussi. Mais il faudra se reposer les bonnes questions. Franchement, au niveau des recrues, je suis déçu de Memphis, de Traoré. Je trouve qu'ils sont pas, pour le prix qu'on a payé ces joueurs-là, on doit avoir des salaires qu'on leur file. Il faut que ça se bouscule sur le terrain. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois Lille, ils ont fait un recrutement low-cost avec 0 euros.
Avec des idées.
Des PP. Ah oui, il y avait des idées à Lille. Hein. Par contre, ils ont gardé PP, ils ont pris Fonte de Chine, Léao gratuit.
Les liens, c'est pas réglé encore, mais c'est plus complexe que ça.
Oui, c'est pas réglé, Nico.
Il faut régler la commission de Nico.
Mais non, mais ils ont sorti quand même de l'argent, Lille, on ne le dit pas. Ouais. Il y a beaucoup d'argent qui est sorti, et il faut absolument que... Mais c'est pas le problème, c'est pas trop ça, c'est surtout que Lyon, le travail sans ballon, comme tu dis, Mehdi, il n'y en a pas. Il y a pas de
même
travail
avec le ballon.
Ils arrivent toujours à se créer des occasions.
Et en fait, ça nous amène sur un point qui moi je voudrais aborder. C'est est-ce que vous pensez vraiment, alors ça fait des années qu'on dit Nabil Fekir doit jouer dans l'axe. Est-ce que vous pensez vraiment que Nabil Fekir c'est un numéro 10?
Non, c'est un attaquant.
Voilà.
Après, il joue jamais vraiment comme un vrai 10.
Il joue pas comme un numéro 10.
C'est arrivé que Genesio le fasse, mais c'est pas
comme ce soir.
C'est assez rare.
C'est un 10 un peu moderne. C'est un 9.
Moi, je ne pense pas que c'est un numéro 10. Je pense qu'il s'est entêté à vouloir jouer dans l'axe pour la liberté que cela peut lui procurer en termes de positionnement, tu sais, d'être un peu électron libre, en termes de faire un peu ce qu'il veut.
Le fait est que le meilleur de sa forme a été très bon à ce poste-là.
Mais il lui manque deux choses, je pense, pour être un numéro 10, pour qu'une équipe repose son système de jeu sur Nabil Fekir. C'est la vision du jeu. Et c'est la qualité et le jeu long. Et ces deux choses, il ne les a pas. Et je pense que le problème lyonnais, parce que là, je suis un peu dur quand je dis qu'il y a rien eu. En fait, c'était par séquence, notamment. Il y a un moment, il y a la double action de Cornet là, entre la 30e et la 40e, où il y a des choses. Mais le reste du temps, c'était apathique, parce que si le plan de jeu de Lyon se repose sur la capacité de Nabil Fekir à créer des situations, je pense pas que ça soit.
Moi, je dirais qu'il manque deux qualités. Trucs, mais je dirais pas la même chose que toi.
Allez, dis-moi.
C'est que physiquement, il est pas au top. On le voit bien. Et c'est que je pense, et d'ailleurs c'est ce que dit d'ailleurs Genesio, et je pense qu'il n'y a pas de hasard quand il le dit, c'est que quand il dit ça se passe dans les têtes, c'est qu'il voit bien que ses tauliers mentalement ils sont pas là. Et que ça fait partie, s'il met pas Ndombele titulaire et tout, il sait qu'il y a des trucs qui se jouent aussi, tu vois, ils sont pas au top les joueurs non plus en ce
moment. Mais moi je pense pas que Nabil Fekir ait le profil du joueur sur lequel à qui tu confies les clés du camion pour créer du jeu.
Tu confies pas.
Et juste pour répondre à Nico, quand les périodes où il allait bien, notamment l'année dernière, ça correspondait aussi au moment où Aouar était en pleine bourre. Et où Aouar, lui, était un peu plus bas et créait les offensives lyonnaises.
C'est plus facile quand les joueurs à côté de toi sont au top. Hein.
Tiens, les gars, on va accueillir. On va accueillir Anthony, autre supporter de l'OL qui nous a fait le jeu. Salut Anthony.
Ouais, salut les gars.
Salut Anthony.
Alors Anthony, t'es en colère ce soir.
Ouais, moi je suis super en colère et enfin je vais pas revenir sur le jeu parce que j'y suis, je suis intervenu plein de fois dans l'after et d'ailleurs ce que tu disais Jonathan, juste pour intervenir là-dessus, la meilleure période de Fekir, moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est pas un 10, hein, sa meilleure période de Fekir, c'est avec Fournier à deux attaquants avec la Lacazette. Hein.
Exactement.
Mais c'est un attaquant de toute façon.
Mais je sais mais oui mais là quand comme quand non, je le refais. Comme quand s'ils y font comme cet après-midi.
refais.
Comme...
C'est bon, ça?
Comme cet, oui, mais en fait, c'était tout bête. Comme cet après-midi, lorsqu'il le met en numéro 10 avec les clés du camion, pour moi, ça ne peut pas marcher. Mais je laisse la parole à Anthony.
Je suis d'accord là-dessus. Voilà, ouais. Après, moi, je suis super en colère. Enfin, pour moi, là, clairement, depuis plusieurs mois, la communication et de Genesio et de Aulas, elle est scandaleuse. Mais vraiment scandaleuse.
Ah, ça, c'est sûr.
Genesio, avant le match, il se permet, alors, franchement, déjà, vu son bilan à l'OL, je pense qu'il devrait être un peu humble. Et en plus, après une élimination lamentable contre Rennes, il devrait être encore plus humble. Et ben non, lui, avant le match, il arrive tout sourire en conférence de presse, mais vraiment tout sourire. Et il nous sort comme quoi on a le cinquième meilleur bilan d'Europe. Ouais. Non, mais il est sur une autre planète, ce gars. Et vous, on a Aulas qui a
c'était
passé
pas
son
très
temps
heureux, c'est
à
vrai.
Pourrir les supporters pendant des semaines
c'était
et des semaines.
C'était pas très heureux non plus.
Hein?
C'était pas très heureux des deux côtés.
Ouais, c'est une catastrophe. Et on a Aulas qui a passé son année à, franchement, à mettre des tacles aux supporters toute la saison. Et il s'étonne que sur, là, franchement, les supporters, ils en ont marre. On nous a dit oui, c'est quelques supporters, c'est quelques tweetos, mais ça représente pas la vie générale. Ça, c'était faux. La vie générale, c'est qu'à Lyon, dès l'année dernière, il y avait 80% des supporters qui voulaient la démission de Genesio.
C'est vrai.
Cet après-midi, les places, elles étaient à 1 euro. Elles étaient à 1 euro. Il y avait 25 000 supporters. Donc ouais, ça prouve bien quand même à quel point il y a une fraction qui est en train de se faire.
Il y a un désamour qui est né. Parce que tu sais, Anthony, je pense que je te demande à toi qui es supporter lyonnais, je sais pas, mais quand t'es supporter d'un club, tu regardes ce qui se passe sur le terrain, mais tu regardes aussi la manière dont ton club est représenté, dans la manière dont ton club est perçu aussi par les autres. Et là, avec ce qui s'est passé cette semaine, vous êtes ridiculisé.
Non mais Anthony, tu parlais de communication, mais quand tu vois les interviews d'Aulas, que ce soit la
elles
conférence de presse, l'interview dans l'équipe, la réponse de Genesio derrière, en conférence de presse où moi je voulais pas que ça sorte. Là, je te disais, on en parlait tout à l'heure, ce que Aulas a dit sur les supporters à la fin du match,
c'est
que Genesio a répondu, c'est-à-dire totalement l'inverse. Enfin, tu sens bien qu'il y a il y a règlement de compte par médias interposés.
Ça va plus. Et Genesio peut pas vraiment s'opposer frontalement à son président. C'est un enfant du club. Il est content d'avoir eu sa chance. Il est reconnaissant. Mais je pense que ça doit lui peser cette situation. Alors je ne l'exonère pas de ses piètres choix en tant qu'entraîneur. Parce que cet après-midi encore, il a fait des choix incompréhensibles. Je ne l'exonère pas non plus du fait que la majorité des gros investissements que Jean-Michel Aulas a fait sur des joueurs en devenir comme Tété, comme Traoré, etc., n'est pas progressé
avec
lui. Mais là, il faut arrêter. Quoi,
Anthony, toi justement,
la saison est longue.
Toute cette question de communication sur l'avenir de Genesio, etc., franchement, quand tu as vu la conférence de presse et toute la communication qu'il y a eu autour, comment tu as réagi? T'as pas eu de la peine, toi, presque même pour Genesio, finalement?
Non, franchement, alors je vais te dire, j'étais en voiture avec un pote, déjà ça m'a rendu fou parce que Aulas, il a fait un monologue de 10 minutes dans lequel le contenu, il y a absolument rien, donc déjà ça m'a hyper énervé. Après, sincèrement, j'ai eu de la peine pour Genesio, un petit peu, mais la peine, elle est partie direct dès que j'ai vu que sa conférence de presse d'avant-match de Dijon.
Ouais.
Et après, enfin, parce que franchement, moi Genesio, je veux bien qu'on nous dise... C'est ce qu'on nous dit, enfin pas vous, hein, mais souvent dans l'équipe, c'est un mec bien, c'est un gars humble, mais jamais de la vie. C'est juste un gars qui arrive, qui fait des petits sourires, qui essaye de pas passer pour le méchant, mais en vrai, franchement, moi un gars qui a le boulard et qui est super bon, déjà ça m'énerve. Ronaldo, il m'énerve, mais bon, c'est un génie. Mais quand en plus t'es pas bon, que t'as pas les résultats et qu'en plus t'as
c'est
le boulard, mais moi ça me met hors de moi.
Enfin, je vois pas pourquoi tu dis qu'il a le boulard, je vois pas ce qui te fait dire
mais
ça.
C'est si, ce que j'allais dire. Ouais.
Dans ses déclarations, ces déclarations, elles manquent d'humilité.
Tu sais,
c'est peut-être de la maladresse parfois, tu vois, la victoire des cinq clubs, mais dire qu'il a le boulard. Enfin, moi franchement, je le connais pas du tout, hein, Bruno.
Non,
Genesio,
mais
j'ai pas cette perception.
Après, hein. Anthony, je pense que c'est vrai que c'était pas du tout heureux ce qu'il a dit là sur les cinq clubs, mais je le prends plus comme une connerie que tu dis quand tu te sens.
Il a une certaine froideur aussi.
Ouais, non, je trouve qu'il a l'air sympa.
Ouais, moi aussi.
Il a de l'humour, tu vois. Mais je pense que là, ce qu'il a sorti en conférence de presse, c'est plus une connerie que tu dis quand t'as vraiment, quand t'es vraiment dos au mur, quand tu te sens vraiment acculé. Tu sais, t'as des réflexes un peu bêtes. Et ça, c'est un réflexe très bête.
Merci à Anthony d'avoir été avec nous au 32-16, 21e journée de top 14, Castres-La Rochelle, Wilfried Templier.
On rentre dans le Money Time dans ce match. 6 minutes à jouer, moins de 6 minutes à jouer. Et Castres a fait un léger break. 20 à 11 pour le Castres Olympique. Notamment, grâce à son artilleur. C'est le meilleur réalisateur du top 14, Benjamin Urdapilleta, l'Argentin. Un drop, une pénalité, ça fait 15 points pour l'Argentin sur les 20 points de Castres. Grand bonhomme de ce match. Et pour l'instant, eh bien c'est Castres qui fait la bonne affaire. Si on en reste là, Castres montrait sur le podium du top 14 à la 3ème place. La Rochelle va peut-être essayer d'aller chercher un point de bonus défensif dans les dernières minutes, même si la Rochelle est à 14 pour un carton jaune envers Jérémy Saint-Zel. 5 minutes à jouer, Castres 20, la Rochelle 11.
Et puis on y reviendra en longueur et en détail tout à l'heure. 31ème journée de Liga, Barça Atlético de Madrid, Fred Hermel.
82ème minute, toujours 0-0 entre le Barça et l'Atlético. L'Atlético réduit à 10 depuis la 28e minute. Extraordinaire Yann Oblak, on en parlera tout à l'heure dans les buts. Mais dans ces dernières minutes de la rencontre, l'Atlético tente le tout pour le tout et c'est pas trop mal. Je serais pas étonné que Griezmann nous mette un petit but. On Merci. Va voir, il reste 8 minutes.
Merci à tout à l'heure. Mon Fredo, à tout à l'heure, mon Fredo, 31e journée de Ligue 1. Je vous rappelle que Lyon a perdu 3 à domicile face à Dijon, un partout entre Guingamp et Monaco, 2-2 entre Amiens et Saint-Etienne. On y revient dans quelques secondes. On vous attend, supporters Picard, supporters des Verts au 32-16, 3-3 entre Angers et Rennes et victoire 2-0 de Nîmes face à Caen. L'after revient dans quelques secondes avec Jonathan McCarty, Ali Benarbia. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Accompagné d'Ali Benarbia et de Jonathan McCarty avec vous sur le hashtag RMC Live, bien entendu, au 32-16. On vous attend. On vous rappelle que cet après-midi, Lyon s'est incliné 3-1 face à Dijon. Guingamp, Monaco, 1 partout. 2-2 entre Amiens et Saint-Etienne. Angers-Rennes, 3 partout. Nîmes a battu Caen, 2-0. Ça joue entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Il reste 5 minutes à jouer. Fred Hermel. Il vient d'y avoir un but, ça y est.
Oh là là, quel but de Suarez. La frappe d'une beauté absolue. 22, 23 mètres, Suarez. Attention à cette nouvelle action pour Messi qui va rentrer dans la surface. Messi qui se retourne. Messi qui frappe. Et le but. 2-0 pour le Barça. Luis Suarez, il y a deux minutes. Et Messi qui donne définitivement la victoire dans cette rencontre. Et donc, virtuellement, la victoire dans la Liga. Extraordinaire Messi. Alors là, il s'est baladé dans la surface, il a fait ce qu'il voulait. Ah ouais, le truc. Mais le but de Suarez, franchement, la frappe, elle est magnifique. Elle lèche le poteau intérieur gauche de d'Oblak et rebondit sur le poteau et rentre dans le but.
Et au classement, c'est quoi là, du coup?
Ah ben là, ça fait 8-11 points d'avance, donc il restera 7 journées, donc c'est fini, quoi. Ouais,
Et le Real a combien d'Atlético, du coup?
Bah, c'est l'objectif de Zidane, c'est de... Non, il passe pas, mais...
Non, à 3 points, c'est ça?
Ils sont à 3 points, ouais.
Ils sont à 3 points, ouais. Donc... Mais l'objectif de Zidane, c'est de terminer deuxième. Mais là, ça y est, c'est réglé. Le Barça est champion.
Il n'y a pas en jeu.
Et un Barça qui, finalement, a bien préparé sa rencontre de mercredi soir sur la pelouse de à Old Trafford, comme Manchester United. Ouais. Parce que... Ils ont géré, après l'expulsion de Diego Costa de 28e, le Barça a géré en sachant que l'occasion allait se présenter à un moment. Ils ont dû attendre un petit peu puisque c'était à la 84e et à la 86e que les deux buts sont arrivés. Mais le Barça, champion d'Espagne, on peut le dire.
Ouais.
Et qui sait, champion d'Europe, parce que Messi, comme ça, quand Suarez, il faut rien pour qu'il marque.
Et non, surtout Fred, ils vont avoir l'esprit libre.
Cyprien me précise, le Real est à 2 points de l'Atlético. Voilà, parce qu'il n'était pas actualisé, mon truc. Il y avait 0-0,
je crois, il y a 2-0. Points,
non, oui, oui, parce que oui, parce qu'avec le 2 points, donc il reste 7 matchs, voilà. Ouais. Mais après, c'est un petit lot de consolation.
En termes de calendrier, c'est quoi?
On y reviendra tout à l'heure.
L'Atlético doit jouer contre Valence, contre Séville, donc en plus c'est compliqué. Okay. Mais bon, l'important, l'information ce soir, c'est que le Barça, après ses deux buts en deux minutes de Suarez et de Messi, le Barça qui est à la 88e mène 2-0 contre l'Atlético et qui est virtuellement campeon d'Espagne.
Merci mon Fredo, on se retrouve tout à l'heure pour revenir en détail sur ce match entre le Barça et l'Atlético, 2-0 pour les Catalans. C'est fini ou c'est en train de se finir entre Castres et La Rochelle, Wilfried Templier?
Ouais, c'est en train de se finir, ça y est, Castres a plié l'affaire avec le deuxième essai de la rencontre signé Alex Tulou après avoir pilonné la ligne rochelaise. Il y avait 20-11 grâce au grand bonhomme du match, encore une fois Urdapilleta, 15 points ce soir pour le demi d'ouverture du Castres Olympique. 20-11, ça voulait dire victoire de Castres et pas de bonus défensif pour La Rochelle est là. Un dernier essai donc Alex Tulou qui est le meilleur marqueur castré, le troisième in-centre néo-zélandais. La tentative de transformation de Rouen et Cocotte en coin, ce sera donc terminé. Ça fait soit 25 à 11 soit 27 à 11 pour le CO qui a fait le métier aujourd'hui. C'est parti, ce ballon complètement en coin qui va passer à côté. On en reste donc là, victoire de Castres 25 à 11. Castres qui est troisième ce soir du top 14 et qui se replace très très bien dans cette course aux 6 premiers. La Rochelle reste ce soir 8e. Il faudra faire un coup à l'extérieur pour les Rochelais pour se qualifier en fin de saison. Le champion de France en titre est toujours là. Castres bat La Rochelle 25 à 11.
Merci beaucoup Wilfried, bon retour à toi, à très vite Wilfried.
Salut, salut.
Et puis nous, on va se plonger dans le match qui nous intéresse maintenant, le 2-2 entre Amiens et Saint-Etienne. Ah. Saint-Etienne qui avait un gros coup à jouer hein, après la défaite de l'OL cet après-midi. On rappelle, Lyon qui a perdu 3-1 face à Dijon. Saint-Etienne qui a ouvert la marque, qui a marqué le premier grâce à Kolodziejczak au quart d'heure de jeu. Égalisation de Konaté à la 18e. Exclusion de Lefort côté amiennois à la demi-heure de jeu. Konaté qui marque quand même le deuxième but pour Amiens à la 66e.
Ça, Gilbert Bribois sur mon petit gazon.
C'est bon ça. Et puis Cabella qui finalement arrache le point du nul pour les Verts à la 90e minute de jeu. Saint-Etienne qui est quatrième à 6 points de Lyon, qui a 2 points d'avance sur Marseille. Alors là, c'est dommage. Saint-Etienne qui s'en sort finalement pas mal hein, dans ce match. Hein.
Ouais, qui s'en sort pas mal, mais bon, 11 contre 10, ils auraient pu chercher à aller mieux. C'est déjà pas mal qu'ils soient revenus au match. Mais ce qui m'a plu, moi, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de ce match-là, là, parce que Amiens fait partie encore du maintien. Là. C'est comme tout à l'heure pour Dijon et Lyon. Moi, je parlais de Dijon et là, je parle d'Amiens, dans le sens où c'est toujours pas terminé pour Amiens.
Puisque Amiens est 17e avec 31 points. Ouais, ça leur fait 7 points d'avance sur Dijon.
Ah, mais il reste encore beaucoup de matchs. Ouais. Donc, ce qui m'a plu dans les derniers moments, c'est que Saint-Etienne, par contre, au lieu de vouloir absolument balancer un petit peu dans la surface en cafouillage pour essayer de marquer ce but, ils ont terminé une action magnifique, c'est terminé par un but de Cabella, en passe de jeu, posé, proprement, techniquement, et ça se termine par un très beau but. Cette action, ça démontre que c'est pas parce que tu vas balancer pour absolument égaliser que tu vas prendre des points. C'est ce qui m'a plu chez Saint-Etienne.
Et ce qui est intéressant, Ali, sur ce but, c'est que c'est une des rares fois dans la saison où on a vu une bonne connexion entre Cabella et Cazin, qui habituellement se marche un petit peu sur les pieds, et là, l'action était limpide.
Tiens, voyons ce qu'en pense Hervé, supporter des Verts, qui nous a appelé au 32-16. Salut Hervé.
Salut Nico, salut Jonathan, salut Ali.
Salut, salut Hervé. Hervé. Bon, comment il va Hervé?
Ben il va très bien, un gros ouf de soulagement quand même. Hein. Il y a un quart d'heure de ça encore, j'étais pas serein. Alors c'est vrai qu'on loupe un petit peu, c'était tellement annoncé la bonne opération de Sainté entre la défaite de Marseille et de Lyon hier et cet après-midi. On attendait vraiment un gros coup de la part des Verts. Ça avait bien démarré, le carton rouge, on se dit bon ben allez, ça y est, c'est pocket. Et puis au final, ben il a fallu attendre les toutes dernières secondes de jeu. Malgré tout, j'ai envie de vous dire qu'il y a un passé pas si lointain que ça, le même contexte, c'est-à-dire même si on avait eu un gros coup à faire, ce match-là, on l'aurait perdu. Là, on fait match nul, donc on va dire que c'est moindre mal. À souligner, effectivement, comme tu disais, Jonathan, et comme Ali le présentait également, une belle action construite sur la fin du match avec une bonne connexion Cazerie-Cabella qui est trop rarement vue. Et après, c'est vrai que c'est un petit peu à l'image de cette équipe de Sainté. Je le dis depuis le début de la saison, on a un effectif très expérimenté. Les gars, moi, je leur fais confiance pour pouvoir gérer certains matchs. Alors, c'est pas toujours flamboyant. Mais là, du coup, ce soir, ça leur a permis, à mon avis, de garder un petit peu la tête froide et de pas trop se précipiter.
Je pense que en plus qu'il y a Hervé, on en a parlé un petit peu cette semaine, mais là Sainté, ils ont fait signer une petite bombe, un Moukoudi, c'est vraiment pas mal. C'est qui ont fait signer ça.
Moukoudi,
si t'arrives, sur le moyen terme une charnière Saliba Moukoudi, c'est l'avenir.
Et en plus ça ferait Harold et Willy.
C'est vrai en plus.
C'est bon ça.
Voilà, bon.
C'est pas faux. Faut Drummond comme entraîneur. Ouais. Là,
non mais.
Bah ouais, là, ça serait.
Ça existe ou pas? Je vais regarder s'il n'y a pas un entraîneur qui s'appelle Drummond.
Ben, première parenthèse.
Gassé, on dirait Drummond.
Ça va. Première parenthèse, Hervé, c'est que moi, je pense que je comprends pas pourquoi Saliba a pas joué. Je trouve que Subotić il a apporté beaucoup, mais.
La saison avec
Saliba, pour le coup, je sais pas, je me mets un peu dans la tête des dirigeants stéphanois,
même
du staff. Il va re-signer, a priori, mais je pense qu'il y a eu un petit peu d'enflammade autour de lui. Il y a eu pas mal de choses
qui ont été
dites avec des gros clubs qui étaient sur lui. Connaissant Jean-Louis Gasset un petit peu et qui lui, aime pas trop ce genre d'enflammade-là. Ouais. Je pense que c'est un petit peu pour le préserver aussi.
En plus, dans la mesure où ce soir, quand tu regardes quand même la défense qu'on a, Debuchy, Perez, Subotic, Colo. Bon, voilà, c'est vrai que Subotic, c'est un petit peu, d'ailleurs, lui, j'ai cru que c'est nous qui allions finir à 10, parce qu'au bout de 46 secondes, ouais, il découpe le mec, il prend un jaune, bon, voilà. Mais bon, voilà, il n'y avait pas, je pense, si Debuchy avait été blessé, ou si Perrin n'était pas revenu, on aurait vu Saliba. Là, il n'y avait pas le feu au lac, en termes de titulaire en présence, donc, je pense vraiment que Jean-Louis Gasset essaie de préserver le petit jeune, ouais, parce okay. qu'il a 17 ans. Hein,
mais alors, ce qui est bien en tout cas, c'est que je pense qu'on pour la fin de la saison, là, c'est l'équipe type qui se dessine. Enfin, cette équipe qu'on a longtemps voulu voir. Bon, effectivement, tu me contrediras pas, on aurait bien voulu voir la même équipe avec Selnes.
Ben, mais bien sûr.
Vada, c'est pas mal.
Mais Vada est pas mal. Hein.
J'ai bien aimé son entente avec M Village. Je le trouve plus, évidemment, plus créatif et plus présent dans les phases de transition offensive que Bennacer. Mais bien après, sûr. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est cette association devant avec Berić et Kazri, qu'au final et on n'a pas tant vu que ça depuis le début de saison. Alors ce match, tu peux avoir des regrets parce que tu prends deux buts et je pense que derrière, moi je continue de penser que t'étais un petit peu friable. Mais je pense que Saint-Etienne peut aborder la fin de saison avec beaucoup de gourmandise, surtout si tu restes avec cette ligne de trois que je trouve hyper séduisante avec Kazri, Nordin et puis Cabella. Mais moi, même si j'aurais tendance à préférer Amouma
à la place de Cabella,
mais voilà, avec l'association de garder Berić dans l'axe qui joue comme un pivot, un point d'ancrage avec Kazri un petit peu en retrait, pas vraiment en numéro 9. J'ai hâte de voir la fin de saison stéphanoise. Alors tu peux être déçu parce que tu perds 2 points, t'avais l'occasion de revenir sur Marseille.
Tu perds 2 points.
Mais...
Attention,
ouais, c'est
une bonne saison qui se profile.
Tu gagnes 2 points. Hein.
Oui, aussi. Tu gagnes un point aussi. Tu peux le voir comme ça. Point, hein. Effectivement.
Par contre, je suis pas vraiment déçu, moi, dans la mesure où c'est à l'extérieur ce résultat.
C'est
à
vrai
la fin
aussi.
Des matchs allés, on
et
avait
Amiens,
pris 7
Amiens,
points.
c'est pas du petit lait à boire non plus, hein.
Voilà, on avait pris 7 points sur la phase aller à l'extérieur. On en a déjà pris 11 sur la phase retour. Donc, ça aussi, faut pas l'oublier. Alors, c'est sûr qu'on a un calendrier à l'extérieur. On a été prendre des points, on a été prendre un point à Nantes, on a été prendre des points à Guingamp, à Caen, à Dijon. Là, ce soir, on prend un point à Amiens. Donc, c'est les 4 derniers, là, que je viens de vous citer. Mais bon, on s'aperçoit qu'il y a des gros, qui chutent. Lyon, ils prennent 0 point chez eux contre Dijon.
Ouais, mais
quand on joue ces petites équipes-là, qui veulent se sauver.
Hervé, je vais te dire pourquoi. Je pense que moi, si j'étais Stéphano, j'aurais peu de regrets. Tu joues contre Amiens, qui certes a fait d'excellents résultats depuis janvier. Et on ne souligne pas assez l'excellent travail de Christophe Pélissier. Mais là, il leur manquait un élément relativement important en la personne de Godos. Et ce qui a amené Christophe Pélissier à revoir son schéma tactique. Amiens, depuis qu'il joue en 4-4-2 avec deux attaquants, je les trouve dans le contenu très bon, dans les résultats très bon. Là, il a joué je sais pas s'il y avait eu Godos, s'il aurait fait pareil, hein. Mais il a changé de système, revenu en 4-3-3, j'ai trouvé un petit peu moins tranchant offensivement qu'à l'habitude. Et je pensais justement que du fait de ce changement de système, Saint-Etienne pouvait peut-être, voilà, espérer mieux, quoi. Profiter de cette blessure de Godos et...
Justement, puisque tu parles d'Amiens, on va l'évoquer avec Sébastien. On remercie d'ailleurs Hervé.
Salut Hervé.
Au 32-16. Salut Hervé. Sébastien, supporter Picard, nous a appelé, est en direct avec nous dans l'after. Salut Seb.
Salut Nico, salut Jonathan, salut Ali.
Salut Sébastien.
C'est vrai que c'est pas mal, hein, Amiens. Et d'ailleurs, juste petite précision, parce que c'est important pour le calendrier. Amiens qui est donc devant au classement, qui a 7 points d'avance sur Dijon. Prochain match d'Amiens, ce sera face à Dijon, hein, justement.
Ouais, mais Amiens, ils sont sauvés.
C'est à Dijon, ouais.
Voilà, à Dijon.
Mais on a joué tous les gros matchs, hein. Tous les gros matchs sont faits, donc ça c'est bien.
Ouais, il manque Dijon, Nantes, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Monaco, Guingamp. Monaco et Guingamp en fin de saison, quand même.
Ouais, mais donc ça devrait aller. Mais
et surtout,
très
vous avez joué à 10 ce soir. Avec...
Ouais, voilà, on était avec Jules, mon fils, dans les tribunes. On était enchantés d'équipe. Elle a super bien joué. Franchement, tous les joueurs ont été présents. Par contre, un vrai coup de gueule, quoi. Quand est-ce qu'on va arrêter en France d'avoir un arbitrage qui se fait au budget du club, quoi? Nous, il y a grosso modo 3 ou 4 clubs contre lesquels on sera pas désavantagé, quoi, en termes de budget.
Tu penses à quelle action de jeu?
Le carton rouge, déjà, il est un peu exagéré.
Il est sévère.
Et il y a 2 actions de Saint-Etienne où il y avait le même carton rouge qui pouvait venir. Donc, et c'est systématique. Contre le PSG, je vous rappelle pas le pénalty imaginaire parce que, je crois que c'était Lefort qui était allongé sur le sol. Le ballon a heurté son épaule, il y a eu pénalty. Enfin, bon, stop, quoi. Je veux dire, à la fin, bon, c'est injuste parce qu'on devait gagner ce match. Surtout à 10 contre 11, on a super bien joué. Franchement, Stéphanois, j'étais très déçu parce que j'ai pas vu grand chose. Et je trouve qu'Amiens termine bien la saison, donc elle mérite vraiment bien de se maintenir cette équipe.
Bien sûr, ouais.
On est très fiers d'eux.
Mais
t'es pas un peu inquiet là par rapport à l'avenir de Pélissier là qui est incertain,
Sébastien? C'est ça surtout.
Ouais, Pélissier, il est top. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il nous manquait Godos, mais
en attendant Godos, ouais.
J'espère qu'on va pouvoir le garder.
Personne n'a saisi l'avance naturelle, c'est très triste.
C'est pas gagné d'avance, mais bon, j'espère déjà qu'on va se maintenir quand même, mais c'est bien parti.
Voilà. Merci Sébastien, à bientôt mon
salut
gars.
Salut Sébastien.
Merci.
Bonne soirée, salut Sébastien.
Ils ont quand même une équipe avec des bons petits joueurs, Amir, hein, que ce soit Monconduit, Godos, Konaté, Girassi.
Mais il y a toujours un petit matelas, Jonathan.
Très bon aussi.
Ils sont que à 7 points
ouais, mais
de Dijon.
Ali, dans la dynamique, quand tu vois ce qu'ils proposent, quand tu vois comment ça s'est redressé depuis le mois de janvier, franchement,
oui,
moi je suis
dans la dynamique, quoi. Mais attention, je le redis encore, attention, les 3 points, ça va très vite.
Ouais. On rappelle,
c'est en train de tourner. Du whisky dans le stade,
victoire de Nîmes 2-0 face à Caen, 3-3 entre Angers et Rennes. On y revient juste après la pause de 2 entre Amiens et Saint-Etienne, un partout entre Guingamp et Monaco. Lyon s'est incliné à domicile 3-1 face à Dijon. Ça vient de se terminer entre le Barça et l'Atlético de Madrid, victoire 2-0 du Barça. On y reviendra avec Fred Hermel dans quelques instants. Et sachez que la Roma s'est imposée à Gênes face à la Samp 1-0 grâce à un but de De Rossi. Dans quelques instants avec Ali Benarbia et Jonathan Marcardi, on revient sur le match spectaculaire de ce samedi, Angers-Rennes, 3-3. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours aussi bien accompagné avec Ali Bénard et avec Jonathan Macardy. T'es tendu, mon Lepape, ce soir. Hein.
Enfin, cette c'était le Lepape qui était tendu.
Ouais, un peu dans la tête, c'est vrai. C'est un peu n'importe quoi. Je vous rappelle les résultats de ce samedi soir. 31e journée de Ligue 1. Ce fut spectaculaire. Ce fut riche en buts. Ce fut c'est également chouette. Riche en surprises. Lyon s'est incliné à domicile 3-1 face à Dijon. C'était cet après-midi. Ce soir, Guingamp-Monaco ont fait match nul, un but partout. 2-2 entre Amiens et Saint-Etienne. Et victoire de Nîmes 2-0 face à Caen. Et puis, il y a eu un match particulièrement spectaculaire entre Angers et Rennes, 3 buts partout. Ben Arfa a marqué le premier à la 35e, égalisation de Rennes Adélaïde, puis Baoken a donné l'avantage au SCO d'Angers à la 52e, Niang a égalisé ensuite pour Rennes, Ben Arfa a redonné l'avantage au Stade Rennais à la 75e sur pénalty, puis Rennes Adélaïde encore lui, eh bien a arraché l'égalisation pour le SCO d'Angers, 3 partout donc, score final, quel match hein les gars.
Ouais. C'était très intéressant. Ça m'a énormément plu. Non, ça m'a plu parce que c'était par à coup. Une fois c'était Rennes, une fois c'était Angers, une fois c'était Rennes, et chacun leur tour a dominé et l'autre équipe se faisait dominer. Et ce qui m'a plu, c'est que jusqu'au bout, on n'a jamais su qui allait vraiment faire la différence ou prendre le dessus après son premier but. À un certain temps, on s'est dit ça y est, Rennes ils vont laisser tomber à 2-1. On a Angers, puis Rennes est revenu, puis il y a ce fameux pénalty, bien sûr, hein, qui change un petit peu tout. Et là, on s'est dit, ça y est, Angers, ils vont encore... cette saison, Angers, combien de points ils ont perdu? On l'a vu avec Moulin à la fin du match. Énormément, où ils gagnaient, où ils se sont fait égaliser.
Ils font
souvent
surtout beaucoup de matchs nuls. Hein. C'est le quatrième
ils
de suite.
Ils se sont fait chaque
cinquième
fois,
même de suite.
Chaque fois, souvent égalisés. Et puis aujourd'hui, c'est eux qui égalisent à la fin.
Après, Rennes... Alors, Rennes avait déjà des absents de marque, il faut le dire, Damien Da Silva, Clément Grenier, qui sont deux joueurs clés du système du système rennais. Après, moi, ce qui me gêne un petit peu, alors Rennes, on va tous être d'accord, c'est l'équipe frisson de la Ligue 1 depuis qu'il y a eu le changement d'entraîneur.
Pas de la Ligue 1. Enfin si, une équipe de Ligue 1 frisson. Ils ont surtout foutu des frissons en Coupe d'Europe.
Plus en Europe.
Non, quand je dis frisson, c'est pas forcément. C'est là où je veux en venir. C'est pas forcément en termes de résultats, mais c'est que quand tu regardes le contenu, il y a toujours quelque chose à dire. Tu t'ennuies jamais devant un match de Rennes. Mais je trouve que ce qui leur manque, c'est de la constance au cours des 90 minutes.
Parle de frisson.
Pas de match en match, mais c'est de la constance dans chaque match. Et bon, donc là, Da Silva n'était pas là, mais j'ai trouvé la défense quand même relativement fébrile. J'ai trouvé qu'il y avait eu des temps faibles qui étaient vraiment trop faibles. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand tu les vois jouer, tu t'ennuies jamais. Et quand t'as Atem Ben Arfa qui est dans cette état de forme
là, le premier là,
il est vraiment extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire.
Je sais pas si Niang.
Merde, d'ailleurs, Gilbert, là, à mon petit gazon, Ben Arfa, ça ne m'arrange pas.
Je sais pas si Niang veut la piquer au-dessus du gardien ou faire la passe.
Tu posais la question aussi, toi.
Et je pense
que. C'est ce que je demandais aussi, Ludo.
Il veut faire le piqué. Moi, je suis persuadé qu'il veut faire le piqué au-dessus du gardien. Et ce qui est bien, c'est que Atem suit l'action. Et ça, c'est. Et on le dit souvent aux attaquants. N'ayez pas peur de suivre l'action jusqu'à la ligne. Parce que souvent, les ballons arrivent à ce niveau-là, il y a juste à les pousser. Et là, ce qui est bien, c'est que, habituellement, il est un petit peu avare d'efforts, des fois. Là, il fait l'effort jusqu'au bout et c'est payant surtout qu'il débute une action magnifique.
On rappelle quand même que Rennes a joué cette semaine en demi-finale de Coupe de France et qualification face à l'Olympique Lyonnais aussi.
Mais après, voilà, est-ce que Rennes joue vraiment grand-chose en Ligue 1.
Alors tu sais que avec, parce qu'ils ont un match en moins hein, par rapport aux équipes du haut de tableau. Bah écoute, là ils ont, attends si je te disais pas, j'étais justement en train de regarder le classement. Pour l'instant ils ont 42 points. Ils peuvent revenir à 45, tu vois, et après rien, tu vois. Ils peuvent revenir à 3 points de Marseille par exemple.
Hein. Ouais, mais bon, ouais, d'accord. Mais j'ai quand même l'impression que toute la fin de saison rennaise va tourner autour de cette finale de coupe.
Non, mais ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai lu l'interview un petit peu d'Adem Ben Arfa où il disait oui, mais Rennes avant c'était toujours entre la 7e et la 10e place. C'est leur classement en ce moment.
Ouais.
Donc je vois pas ce qui a changé.
Bah, ce qui a changé, c'est que l'entraîneur est arrivé relativement, il a pas fait la saison entière, et que cette dynamique, la dynamique qui s'est enclenchée, qui fait que Rennes a plus de certitude d'être contenu dans le jeu.
D'accord. Mais le classement à la fin.
On verra, c'est sur une saison complète ce qui se passe, mais c'est possible. Il s'est passé quelque chose à Rennes.
Oui, c'est passé quelque chose. Il se passe des fois, qu'ils vont accrocher l'Europa League?
Bah, ça on verra, mais je pense que leur fin de saison, ça va se jouer
de la finale.
Et je pense surtout, Ali, que quand tu demandes à n'importe quel supporter rennais s'il a pris du plaisir cette saison, ils te diront tous oui.
Et quitte à finir 7e ou 10e, autant finir 10e et vivre une saison comme ça.
Rennes, c'est un encéphalogramme plat.
Oui, et à l'image de Marseille, la saison dernière, où on a pris du plaisir.
Exactement.
En finale de coupe, enfin, tu vois, il y a quand même des trucs.
Et puis, tu peux gagner,
après, c'est bien de gagner aussi.
Typiquement, alors autant je dis ça et vont s'en prendre fin contre le Paris Saint-Germain qui est une formidable armada, mais c'est typiquement le genre d'équipe qui est capable de te faire l'exploit. On l'a vu en coupe, hein. On l'a vu sur un match, c'est pas un match aller-retour, ça peut le faire. Après, un petit truc sur Rennes et qu'il faudra améliorer pour la saison prochaine, c'est quand tu regardes en fait, t'as deux absents et quand tu regardes le banc, je trouve qu'il manque quand même encore un petit peu de profondeur. Tu vois les options qui étaient disponibles là, c'était pas, il fait rentrer Del Castillo, Traoré, Carnavinga.
Ça reste Rennes.
Ouais, mais je pense pas que Rennes a des ambitions.
Tu peux pas avoir non plus un groupe trop étoffé non plus.
Non, mais je pense qu'un ou deux joueurs offensifs de qualité en plus, ça ne pourra que les aider.
C'est là que le centre de formation, tu dois avoir ces fameux deux ou trois joueurs pour un complément, sinon ton centre de formation,
je t'ai pas dit qu'il fallait forcément recruter, mais peut-être faire monter des jeunes, je sais pas comment ça va se passer.
Oui, un complément.
Julien Stéphane connaît bien le centre de formation, donc je pense qu'il faudra penser à étoffer l'effectif d'une manière ou d'une autre la saison prochaine, mais leur saison est remarquable.
Voyons ce qu'en pense Eric, il est supporter breton et il nous a appelé au 32-16. Salut Eric.
Salut Ali, salut la team.
Salut Eric.
Salut.
Alors qu'est-ce que t'en penses Eric de ce match toi finalement là, ce 3-3 à Angers?
Bah, tu vois là, j'étais en train de le mater avec des potes et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas ressenti cette fatigue d'accumulation de matchs. Donc ça déjà c'est un point fort. Et puis après, à Thème, je pense, montre de plus en plus que c'est quand même lui le patron dans cette équipe quoi.
Il a égalé son meilleur total de buts sur une saison, Ben Arfa.
Ah ouais?
Ouais, ouais. Il a claqué, il a même dépassé, d'ailleurs, je dis une connerie, toute compète.
Plus qu'à Nice?
Ouais, ouais.
Ligue 1 ou confondue?
Toute compète confondue, on est à 9, là.
Ah, voilà.
Et je crois qu'il avait fait 7 à Nice, si je dis pas de bêtises, c'était son meilleur total.
7 buts?
Ouais. Il avait mis
beaucoup de passes décisives. À Nice, il avait mis une quinzaine de buts, je crois.
Non, je crois qu'il avait mis
beaucoup. On avait l'impression que...
Ah ouais, ok.
Non, je te dis une connerie, il en avait mis 18.
Il avait mis plus d'une quinzaine de buts.
Non, là, j'ai dit une connerie, en fait. Vas-y.
À Nice, qu'il avait fait toute la saison.
Il avait mis 18 buts.
Ouais,
Ouais, pardon, Eric.
Ouais, non, ce que je voulais savoir de votre côté, vous, en tant que professionnel, à votre avis, avec un meilleur gardien, est-ce que Rennes n'aurait pas la possibilité d'aller titiller des places européennes plus facilement que de grignoter des points et galérer comme
ça? Il est inconstant, Koubek, en fait.
Non,
c'est ça.
Je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Pour l'instant, Rennes. Alors, est-ce que tu penses que le retour de Costil serait une bonne chose?
Ah, bien sûr.
En expérience, oui. Après, en projet, je suis pas sûr.
Vous avez pris, j'oublie son nom, de Monaco, qui est bon.
Badiachil,
ouais, qui est bon.
Et pourquoi
après, il est encore peut-être un peu jeune, mais je pense que tu vois faire revenir
Benoît Costil. Tout à l'heure, tu parlais du centre de formation, justement.
Ouais. Mais
il faut aussi aller piocher dans la jeunesse, Eric, et voir.
Tu sais que le poste de gardien, c'est un poste qui est un petit peu différent. Et moi, je pense qu'avoir reprendre Benoît Costil, si ça peut se faire, pour encadrer Badiachil, pourquoi pas? Tu vois?
Mais pourquoi?
Mais
pour toi, c'est vraiment le problème, le poste de gardien à Rennes, là, tu trouves?
Ouais. Tu vois, là, je suis avec des potes et on regarde quand même les matchs et c'est vrai que c'est quand même un point faible.
Et je pense que vous pouvez
le dire aussi de votre côté, quoi.
Ouais. Mais même le petit Diallo est bon aussi. Enfin, il y a, on verra la saison prochaine. Là, écoute, je pense qu'ils sont encore jeunes. T'as le potentiel avec Badiachil et Diallo. Mais c'est intéressant ce qui se passe. Et je pense que mine de rien, quand est-ce tu vas fermer le livre de cette saison, tu diras que t'as vécu une putain de saison quand même.
Le problème, ça sera, est-ce que Rennes va pouvoir garder enfin, cet effectif-là, être dans la continuité, parce que ces derniers temps quand même.
C'est sérieux ce que fait Olivier Létang.
Non, c'est vrai, mais il change.
Ouais, mais non, si, mais Ali, si Olivier Létang, c'est sérieux.
Non, ça je sais, mais si Olivier Létang commence à changer au début de la saison, on ne sait pas.
Je pense pas.
Prends l'exemple.
Tu penses à quoi, par exemple,
ouais. Départ d'Atem Ben Arfa. Déjà d'une. C'est possible qu'il s'en aille.
C'est pas impossible, c'est clair.
Ouais. Oui, exactement.
Mais ça sera pas la fuite, l'exode massif, quoi. Il y aura peut-être un départ ou deux, mais ça sera pas tous les joueurs.
On sait pas, parce que ces derniers temps, Rennes, il y a eu beaucoup de départs,
allez,
beaucoup d'arrivées.
Tu vas avoir quoi? Tu vas
est-ce qu'on aura la continuité?
Ismaïl Assar qui va être très demandé en Angleterre, mais c'est tout, quoi.
Oui, c'est tout. C'est
super, mais merci.
Ben Arfa.
Merci Eric d'avoir été avec nous. Salut, on revient dans quelques instants. On va revenir notamment sur la course au maintien, le 1 partout entre Guingamp et Monaco et la victoire de Nîmes 2-0 face à Caen. On vous attend, supporters de ces équipes, au 32-16 avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy. À tout de suite pour la suite de l'After.
RMC, l'After Foot.